SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Europa Voice numéro 128. Et comme à l'accoutumée, nous sommes une dernière fois pour l'année, en tout cas avec moi, ce sera avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
128, et on parle encore de deux points importants qui ont été un peu la Madeleine de Proust, malheureusement, je serais tenté de dire, d'Europa Voice depuis un petit moment, la guerre en Russie et les migrants. Et cette fois-ci, c'est la problématique, elle est un peu jumelée avec un point de contention, la frontière à la Finlande. Ça se durcit, ça se complique. La Russie a un rôle à jouer, la Finlande a un rôle à jouer aussi énorme pour les portes de l'Europe. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Alors, effectivement, on est dans un sujet qui regroupe un peu plusieurs problématiques parce qu'en toile de fond, on a la guerre en Ukraine et puis on a aussi la pression migratoire et notamment l'arrivée de migrants depuis le Moyen-Orient. Et tout ça s'est conjugué dans un épisode de tension qui est en train de trouver son paroxysme avec la Finlande, donc un pays limitrophe de la Russie, qui menace...
Et un pays avec une histoire compliquée avec la Russie
et
aussi.
Et une histoire aussi...
Plus que compliqué.
Oui, une histoire de territoire. J'allais employer le terme de colonisation, mais c'est plus juste de parler de territoire. Mais voilà, une Finlande en tout cas qui menace de fermer totalement le seul poste frontière qui est encore ouvert actuellement avec la Russie. Donc c'est encore un autre ajout de difficultés pour la Russie dans ce contexte-là, et aussi pour l'Europe, parce qu'il va bien falloir que l'Europe gère aussi ce nouveau point de contention. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qu'il est important de mentionner, Christophe, c'est que tout ça s'inscrit aussi avec en toile de fond l'Alliance Atlantique, l'OTAN et les différents mouvements et intégrations de pays dans l'OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine-Russie.
Alors c'est pour ça que ce sujet regroupe énormément de choses. On va déjà parler du rôle de la Russie dans tout ça. Il y a eu pas mal de rumeurs, vrai, pas vrai, je sais pas, on n'est pas là-bas pour voir, mais que la Russie faciliterait le transport des migrants pour pouvoir augmenter la pression sur l'Union européenne, donc utiliser les migrants non pas comme bouclier humain, on pourrait dire, mais comme arme en tant que telle pour pouvoir mettre une pression, une différente type de pression. C'est un nouveau type de guerre, entre guillemets, avec l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on sait de ça exactement?
Alors, on sait d'abord, de par l'observation, que pour le colonel Pete Kaniti, qui est le responsable des affaires internationales auprès des gardes-frontières, donc un haut gradé finlandais.
Et monsieur garde-frontière.
Le monsieur garde-frontière, exactement, que effectivement, on observe depuis quelques jours, depuis le début du mois de novembre, une augmentation du nombre de migrants à ces points de passage de frontière entre la Russie et la Finlande. Alors pour l'instant, les chiffres ne sont pas extraordinairement grands, mais comme on le dit souvent à Europa Voice, ce qui est important, ce n'est pas l'image à un instant T, c'est la progression. Et ça, les gardes frontières finlandais l'observent depuis quelques semaines déjà. Et puis, il faut aussi avoir en tête que ce qui est en train de se passer, ça remet en mémoire pour les Finlandais certains épisodes de milliers des années 2010, où on avait eu un nombre important de demandeurs d'asile qui avaient franchi cette frontière entre la Russie et la Finlande, en dépit d'un accord entre les deux pays à l'époque, où chacun est responsable du filtrage et des passages de son côté de la frontière pour ne pas laisser passer de migrants qui n'ont pas de papier en règle. Donc c'est une frontière qui est extrêmement bien gardée entre la Russie et la Finlande, où chacun est le garant, chaque pays est le garant que si un migrant n'a pas de papier en règle, il ne peut pas passer de l'autre côté.
Mais ça, c'est vrai encore aujourd'hui si les lois étaient respectées à la lettre.
Ça, c'est encore vrai aujourd'hui, Christophe, et c'est pour ça que ça fait réagir les hauts gradés, les politiques finlandais. C'est qu'ils observent, comme de par hasard, depuis le début du conflit en Ukraine et surtout depuis l'adhésion il y a quelques mois de la Finlande à l'OTAN, un non-respect de cet accord-là, une augmentation du nombre de ces migrants illégaux et surtout un changement de la nature de ces migrants, pas forcément russes, mais aussi moyen-orientaux. Et donc la Finlande accuse à peine à demi-mot la Russie d'instrumentaliser la question migratoire.
De faciliter le transport hein, d'un bout d'un pays à l'autre.
Exactement, de faciliter ce transport-là et d'instrumentaliser vraiment hein, la détresse migratoire pour mettre une pression sur la Finlande qui, jusqu'à présent, encore une fois, avec la Russie, avait des relations non pas apaisées, hein, puisque depuis le début du conflit en Ukraine, les relations se sont tendues, mais en tout cas, des relations où il n'y avait pas cette question migratoire qui pourrait mettre en péril le statu quo actuellement à l'œuvre entre la Finlande et la Russie.
Et la réaction de la Finlande dans tout ça, est-ce que la Finlande a besoin de l'Europe ? Est-ce que l'Europe aide ou aidera ou devrait aider la Finlande ? On sait que jusqu'à l'année dernière, la Finlande avait une première ministre qui était très présente sur les réseaux sociaux, qui était très présente sur la communication. Là, on entend un peu moins parler hein, de la réaction finlandaise. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ?
Bah, d'abord, on sait, juste sur ces épisodes-là, Christophe, que y a ces problèmes à la frontière, mais en plus, ils s'inscrivent dans un contexte où les autorités finlandaises observe aussi depuis quelque temps, par exemple, une augmentation du nombre de cyberattaques venant de la Russie. Donc, ça s'inscrit dans un contexte de déstabilisation globale du voisin russe par rapport à la Finlande, avec, encore une fois, en toile de fond, cette trahison.
Vue par les Russes, hein. Enfin, c'est d'un point de vue russe, la Finlande qui rejoint l'OTAN, c'est une pure et simple trahison.
Ah oui, c'est vous avez choisi votre camp d'une certaine façon. Du côté de la Finlande, en fait, aussi, il faut bien comprendre, hein, et ça, j'encourage tous nos auditeurs d'Europa Voice à aller lire une interview extrêmement intéressante du président de la Finlande, Sauli Niinisto, qui a été donnée à nos confrères du Monde il y a quelques mois de cela, où il explique, en fait, les raisons de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et il donne véritablement, c'est un plaidoyer hein, en faveur d'un rapprochement de la Finlande avec l'OTAN. Il dit par exemple, nous ressentons un grand soulagement après l'adhésion avec l'OTAN et je conseille de lire cet entretien qu'il avait donné au Monde parce que ça montre véritablement que cette adhésion dans l'OTAN, elle a été accélérée, elle a été fast-trackée de par le conflit avec la Russie et elle s'explique en partie parce que la Finlande a besoin du bloc de l'Alliance Atlantique et donc aussi en arrière-fond de l'Union Européenne pour faire face aux défis que la menace russe présente pour eux. Il y a des éléments intéressants aussi dans cette interview. La conscription est encore obligatoire, Christophe, en Finlande. Donc ce qui fait que la Finlande aussi, pour l'OTAN, j'allais dire, a une armée qui est opérationnelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. L'OTAN, c'est pas la maison des bisounours, c'est aussi une maison qui a un intérêt à voir certaines armées ou certains pays rejoindre son alliance militaire. Et la Finlande, malgré sa petite taille, a une opérationnalité au niveau de son armée extrêmement importante. Et d'ailleurs, le président Niinisto avait un petit peu nargué les Allemands en disant que le pays était plus de 15 fois plus petit que l'Allemagne. Mais avait une force de frappe en termes de nombre de militaires prêts au combat, beaucoup plus importante par exemple qu'un pays comme l'Allemagne. Et donc ça, il ne faut pas non plus l'oublier. C'était que évidemment pour la Finlande, c'est un intérêt de rejoindre l'OTAN, mais pour l'OTAN, avoir la Finlande, l'armée finlandaise avec cette frontière, la frontière russo-finlandaise, elle est extrêmement importante, Christophe. C'est une frontière extrêmement étendue, c'est en plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Et donc ça a aussi un intérêt pour l'OTAN d'avoir la Finlande au sein de l'Alliance Atlantique.
Alors, dernier élément sur cette question, et je vais élargir le débat, ça fait plus de 600 jours que la Russie a attaqué l'Ukraine physiquement sur le contexte qu'on connaît à l'heure actuelle. On sait que ça dure depuis beaucoup plus longtemps, le conflit, mais là, sur ce conflit-là, plus de 600 jours, on sent que ce conflit, quoi qu'on le veuille, va redistribuer les cartes sur ce côté, sur la face est de l'Europe, c'est sûr et certain. Les éléments, comme la Finlande joint l'OTAN, ça fait un moment que la Finlande voulait rejoindre l'OTAN. Ça, comme vous l'avez si bien dit en franglais, fast-tracké cet élément-là. Forcément, cette guerre laissera une empreinte, va changer géopolitiquement cette partie, la partie est de l'Europe.
Oui, en fait.
On pensait que ça allait être une guerre éclair, une dizaine de jours. On en est à plus de 600 jours. On se rend compte que dans les livres d'histoire, ce sera un moment clé.
Ben c'est un moment clé et puis c'est aussi un moment clé. Je pense qu'il faut mettre ce contexte de guerre maintenant qui dure hein, entre la Russie et l'Ukraine avec un contexte aussi de changement des gouvernements, et ça fait sûrement une bonne transition pour notre prochain sujet, mais un changement des gouvernements aussi au sein de l'Europe. C'est-à-dire que on a une espèce de double mouvement de fond qui est assez intéressant. C'est-à-dire à la fois, on a une Europe qui se droitise de plus en plus, avec des gouvernements de droite dure, d'extrême droite, et en même temps, on a une Europe qui de plus en plus s'indépendantise par rapport aux voisins russes, qui commence en fait petit à petit à aussi être lâché. Alors c'est pas directement, mais quand, encore une fois, vous avez des pays de l'Est européen qui veulent rejoindre l'OTAN, c'est un signal qui est extrêmement fort pour Moscou. Vous avez mentionné le mot, c'est une trahison pour Moscou. Et donc on a ces deux mouvements qui sont un peu contradictoires d'une certaine façon, mais qui sont en train d'avoir leurs effets de manière simultanée. À la fois une Europe qui se droitise et en même temps une Europe de l'Est qui s'indépendantise de plus en plus de la Russie et qui rejoint soit l'Alliance Atlantique, soit qui a des velléités de rejoindre carrément le bloc de l'Union Européenne. Et donc ça va être extrêmement intéressant de voir, on a aussi des élections européennes en juin prochain, en juin 2024, de voir en fait comment les cartes même vont être redistribuées au sein du Parlement européen par rapport à ces deux mouvements de fond. Est-ce qu'on va avoir un Parlement européen qui va être aussi à l'image des gouvernements en Europe plus à droite, quoi, un Parlement européen qui va être sur une ligne plus à gauche pour contrebalancer ces gouvernements à droite. Mais en tout cas, on a une Russie, on sent, on a aussi une Russie de plus en plus isolée sur cette scène européenne et qui a fait le pari de cette guerre d'usure. Et peut-être que sur le terrain militaire, il y a certaines victoires. En tout cas, sur le terrain politique, il semble que la victoire est plutôt pour les alliances libérales, démocratiques, que sont à la fois l'Alliance Atlantique et l'Union Européenne.
Mais pendant un bon moment, les Russes aussi tenaient une grosse partie de l'Europe et de cette frontière avec leurs ressources, avec l'énergie, avec le gaz. Ça, aujourd'hui, les pays qui veulent s'émanciper, il faut aussi qu'ils prennent parti de s'émanciper d'une ressource facile qui était le gaz russe. Donc c'est ce que l'Europe doit aussi apporter à des pays qui veulent s'émanciper, casser ce lien avec la Russie.
Oui, exactement. Et puis la Finlande, pour juste revenir sur l'exemple de la Finlande, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. La Finlande, par exemple, n'a plus aucune présence d'entreprise finlandaise depuis un an après le début du conflit. C'est quand même un des seuls pays, malgré sa petite taille, qui a complètement rompu ses liens économiques avec la Russie. Il y a l'ambassade de Finlande aussi, juste, et c'est pas qu'anecdotique, qui a fermé le consulat, pardon, qui a fermé à Saint-Pétersbourg. Donc on voit aussi petit à petit quand même ces pays qui sont en train de continuer à exister sans avoir absolument plus aucun lien, ou en tout cas s'émanciper complètement de relations, qu'elles soient politiques, culturelles et économiques, avec la Russie.
Vous écoutez Europa Voice avec Nathanaël Bloch, toujours deuxième partie pour cette semaine. On va reparler de la Pologne et du gouvernement polonais. Ça s'éclaircit, on allait penser que ça pouvait durer une éternité, la mise en place d'un gouvernement. Bon, ça va, ou ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on pensait.
Oui, Christophe, alors effectivement, peut-être faire un rappel. Il se trouve que c'est la droite populiste nationaliste qui avait remporté les élections législatives au mois d'octobre. C'est le PIS, hein. Mais en fait, il se retrouve minoritaire pour former un gouvernement face à une coalition de forces plus pro-européennes, pro-libérales, emmenée par Donald Tusk, dont on a beaucoup parlé évidemment dans notre Europa Voice. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que cette droite populiste, nationaliste, on lui a demandé de former son gouvernement, mais très certainement, elle n'y arrivera pas. Et donc, ça reviendra à Tusk et ses alliés. Bon, déjà, Tusk, lui, de revenir au pouvoir et aussi de former son gouvernement. Donc, en ce moment, si vous voulez, c'est un gouvernement, mais un peu factice, qui ne durera pas, qui sera impossible à gouverner, qui est en train de se former en Pologne. C'est, j'allais dire, Christophe, les joies de la démocratie parlementaire, non pas parfaite, mais qu'on a connu, par exemple, en France, sous la 4e République. Et donc, c'est absolument ingérable, parce que vous avez beau être premier, arrivé en tête aux élections législatives, si vous n'êtes pas capable de vous entendre, de former une coalition, vous ne gouvernerez pas. Et puis ça veut dire aussi que de l'autre côté, alors c'est pas le cas en Pologne, mais je pense que c'est important aussi de le préciser à nos auditeurs d'Europa Voice, c'est que des coalitions des fois se forment de manière complètement contre-naturel, avec des partis qui veulent juste accéder au pouvoir. Ce n'est pas le cas encore une fois en Pologne. Mais cela étant dit, on va voir aussi si Donald Tusk arrivera vraiment à avoir le soutien de tous ses alliés ou s'il va y avoir encore des tractations qui vont rendre la tâche un peu plus compliquée.
Alors nous, Donald Tusk, on le voit d'une certaine vision, d'un certain angle, parce qu'il a été vraiment très présent sur le point, d'un point de vue européen de par son rôle. Comment il est vu aujourd'hui, Donald Tusk, en Pologne? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut? Est-ce que c'est l'homme qui tombe à pic? Est-ce que c'est l'homme de la situation pour le pays aujourd'hui et qu'il faut juste attendre que les rouages politiques se mettent en place pour qu'il puisse accéder au pouvoir? Est-ce que c'est lui qu'il faut en ce moment pour la Pologne?
Alors, comment on le perçoit, c'est un peu d'où est-ce que tu parles, camarade des mouvements trotskistes de 68. Donald Tusk, c'est l'ex-président du Conseil européen, Christophe. Donc, il est perçu, par exemple, par la droite ultra-conservatrice comme la marionnette.
Un vendu,
la marionnette de Bruxelles, un pro-allemand, pro-français, qui met les intérêts de l'Europe au-dessus de ceux de la Pologne. Alors que pour les mouvements plus libéraux de droite, hein, quand même, Donald Tusk, c'est une personne de droite, il est vu, voilà, comme un leader déjà qui comprend comment Bruxelles marche, qui est capable aussi, ça c'est important, Christophe, de débloquer les milliards d'euros qui sont pour l'instant gelés parce que la Pologne doit se remettre sur le chemin de certaines exigences de Bruxelles. Donc il est vu aussi comme quelqu'un qui comprend ces rouages-là, qui est peut-être capable de débloquer ces milliards de fonds pour Bruxelles. Et puis, il est surtout vu aussi avec, encore une fois, par la droite libérale et par les mouvements plus pro-européens, comme quelqu'un qui est capable aussi de mener à bien la Pologne, parce qu'il a été à la tête aussi de la Pologne. Il a gouverné la Pologne ces dernières années. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment d'où on se place. Mais ce qui est sûr, c'est que le camp ultra-conservateur va évidemment jouer de cette casquette-là, de vendu, de pro-européen, de mettant les intérêts de Bruxelles et de l'Europe au-dessus de ceux de la Pologne, pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais j'allais dire, il est quand même plus ou moins, s'il arrive à former sa coalition et à tempérer les velléités peut-être d'autres partis, il est le prochain Premier ministre polonais. Et donc certainement une bonne nouvelle à la fois pour la Pologne et pour l'Union européenne.
Et au niveau européen, et même des pays au sein de l'Europe, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, etc. Pays-Bas peut-être un peu moins, mais depuis le dernier Europa Voice, mais on attend Donald Tusk à la tête du pays. On a besoin que Donald Tusk soit à la tête d'un pays comme la Pologne.
Un des premiers déplacements qu'il a fait, Donald Tusk, après les élections d'octobre, c'est de venir à Bruxelles, en fait, et de rencontrer Ursula von der Leyen. Les deux se sont affichés de manière très amicale. Donc, c'est un signal, c'est plus que symbolique, c'est un signal fort aussi que, après cette petite parenthèse très, très à droite, Bruxelles attend aussi le retour de ce leader, encore une fois, pro-libéral, pro-européen, à la tête de la Pologne. Et donc pour Bruxelles c'est une bonne nouvelle d'avoir ce partenaire là et c'est aussi une bonne nouvelle, Christophe, parce que encore une fois on l'a mentionné, Donald Tusk, c'est celui qui sera sûrement capable de faire que le pays remplisse les critères nécessaires pour débloquer les fonds du plan de relance européen qui sont justement gelés depuis des ans parce que le gouvernement ultra-conservateur n'a pas respecté un certain nombre de règles. On en parle souvent, Christophe, quand on évoque le leader hongrois Orban, mais les questions du respect des minorités, les questions de l'état de droit, et ben depuis deux ans, l'Europe trouve que cette feuille de route, elle n'est pas respectée par les leaders ultra-conservateurs polonais. Et donc Donald Tusk, c'est aussi une bonne nouvelle, encore une fois, pour remettre la Pologne sur les rails, sur les bons rails, pour que le pays puisse profiter pleinement de ces fonds européens et revenir un petit peu dans la cour de récréation des pays qui font l'Europe et qui sont pro-européens.
Le 1er mai 2024, ça fera 20 ans que la Pologne est entrée dans l'Union européenne officiellement. Vous pensez qu'en Pologne, ça peut jouer le fait qu'il y ait un anniversaire symbolique, mais important quand même. On sait que la Pologne, si vous êtes européen et que vous écoutez ce podcast, vous savez pertinemment que la Pologne a énormément, entre guillemets, profité, en tout cas bénéficié de son entrée. C'est vraiment un exemple pur d'une économie qui s'est vraiment retournée complètement et qui s'est modernisée, entre guillemets, en adhérant à l'Union européenne. Est-ce que le fait qu'on atteint l'anniversaire des 20 ans exactement dans quelques mois, ça peut aider aussi ce sentiment pro-européen à revenir un petit peu sur le devant de la scène?
Mais la Pologne, Christophe, vous avez raison, c'est l'exemple
pur.
C'est l'exemple pur, parfait, d'une réussite de l'Union, de cette Union européenne d'intégration
et d'une acceptation. Enfin, d'une acceptation, parce qu'on en a beaucoup parlé du plombier polonais. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites contre la Pologne et contre les Polonais à l'entrée de la Pologne, donc, dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Non, la Pologne est totalement intégrée dans l'Union européenne.
On va évidemment parler des directives Boltanski, je m'en rappelle à l'époque, de cette histoire du plombier polonais. Mais la Pologne, c'est effectivement cet exemple de réussite d'un ex-pays du bloc soviétique qui rejoint l'Union européenne et qui est le fer de lance aussi.
Hein. Oui,
c'est l'exemple pour les autres pays d'Europe de l'Est de cette capacité à moderniser son économie après 50 ans de dictature communiste. Et d'ailleurs, la Pologne a souvent été vue aussi comme ayant ce rôle un peu tampon de filtre entre l'Europe occidentale, européenne historique et les autres pays de l'Est, premièrement, première zone tampon, et aussi avec la Russie. Ça arrangeait bien les Européens aussi, et ça arrange toujours bien les Européens d'avoir cette espèce de mastodonte de pays de l'Est, même en termes de taille, qui fait tampon avec le voisin russe. Et donc c'est pour ça que c'est important pour l'Union européenne de continuer à avoir une Pologne pro-européenne qui veut se moderniser et qui veut complètement jouer le jeu des règles de l'Union européenne. La question, c'est est-ce qu'on va voir des nouvelles Pologne? Est-ce qu'on va arriver aussi justement à avoir cet effet un petit peu boule de neige sur d'autres pays capables de se moderniser aussi et de pas tomber dans l'escarcelle d'une droite un peu dure extrême? On a parlé de la Slovaquie ces dernières semaines, Christophe. On a parlé, évidemment, on parle souvent de la Hongrie. On a des élections aussi en Roumanie qui vont venir. Donc c'est aussi ça, c'est comment est-ce qu'on fait que cette modernisation permise par l'Union européenne au sein de la Pologne, elle puisse faire un petit peu effet boule de neige sur d'autres pays européens et permettre une prospérité de ces pays-là à l'heure où la plupart aussi, Christophe, c'est important de le mentionner, demandent à rejoindre ce bloc de l'Union européenne et à être acceptés à ce club parce que c'est la seule raison qui fait qu'ils ne tomberont pas et qu'ils ne retomberont pas sous l'escarcelle russe. Donc moi je dis vive la Pologne, Christophe, et faisons en sorte qu'elle puisse revenir pleinement autour de la table des négociations avec Bruxelles et jouer ce rôle de locomotive pour les autres pays d'Europe de l'Est.
J'ai un pays que j'adore, la Pologne. Je suis allé tellement de fois pour le travail, c'est un très beau pays. Dernier mot, mais je pense que pour l'année prochaine, en 2024, on sent déjà qu'il y aura un peu un cap à l'Est dans notre éditorial, parce que l'actualité va mettre sûrement un cap à l'Est européen.
Oui, c'est les prochaines élections en Europe de l'Est. Ce qui va se passer au niveau du conflit avec la Russie et l'Ukraine fait qu'encore une fois, on va voir si on arrivera à maintenir cette zone tampon. On a parlé aussi des Balkans avec leurs demandes d'adhésion, d'un nombre de pays de l'Est aussi qui sont dans cette espèce de corridor avant les candidatures officielles pour intégrer l'Union européenne. Donc effectivement, cap à l'Est, voir s'il y a quelque chose de nouveau à l'Est.
Exactement.
L'année prochaine.
À l'Est d'Éden. Merci Nathanaël pour tous ces Europa Voice cette année et on sera un plaisir de vous retrouver l'année prochaine.
Merci beaucoup Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.